Éco d'économie, Jocelyne Moussaou.
Bienvenue dans ce magazine économique. Guy Manzangou est à la mise en onde. Berry Franklin Luchaka nous donne les nouvelles.
Crise au sein de la SEC Ituri. Nous en parlons dans deux minutes avec Sadala Chabani. Et puis le Premier ministre Adolphe Mouzetour s'est expliqué samedi dernier devant la presse sur le bilan de l'évolution économique sous sa gouvernance. Présentation et analyse de ce bilan avec Agathe Pona dans la seconde partie de cette émission.
Également dans la seconde partie de Écho d'économie, nous recevons Mumba Gama, ministre provincial de l'agriculture, pêche et élevage de la province du Katanga. D'abord, les informations nationales. Les carburants ne se vendent plus dans les stations-service qui longent le boulevard Lumumba à Kinshasa.
Les travaux de modernisation de route obligent. 8 stations-service doivent être démolies pour ces travaux. Entre-temps, le préavis sollicité par les opérateurs pétroliers pour écouler leurs produits semble n'avoir pas trouvé de réponse. Aujourd'hui, les policiers ont été postés dans chaque station-service pour veiller à ce que les produits pétroliers ne soient pas vendus. Dans l'une des stations Engen, par exemple, le stock est estimé à plus ou moins 15 mètres cubes, soit 15 000 litres, ce qui constitue un manque à gagner considérable.
Les investissements en RDC se sont bien comportés en 2009.
Et ce, malgré la crise économique et financière qui a frappé le monde. C'est le constat fait par l'Agence nationale pour la promotion des investissements devant la presse lundi dernier. Selon Boaboa Kayembe, qui dirige cette agence, seul le secteur minier en a souffert. Le secteur de l'immobilier, des infrastructures, de l'industrie, l'industrie de transformation et le secteur bancaire ont été très bien résistés. 123 projets ont été enregistrés et agréés par la NAPI pour un coût de 2,399 milliards de dollars et appelés à créer près de 19 500 emplois directs pour les Congolais contre 112 projets en 2008 d'un coût de 1,985 milliards devant créer 17 947 emplois.
Kalemi se réapprovisionne en ciment gris.
Nous sommes au nord Katanga, dans la province de Katanga. Cette situation intervient après un mois et demi de pénurie de ciment gris. Une cargaison de 280 tonnes de ciment a été déchargée au port et les premiers consommateurs ont pu s'en procurer à moins de 17 dollars le sac de 50 kilos. L'unique importateur de ce produit de Kalemi indique qu'une partie de la cargaison est destinée aux travaux d'utilité publique tels que la clôture du stade Saint-Doué et la voirie urbaine, ce qui laisse à présager une nouvelle rupture de stock, tellement les besoins sont énormes dans la ville, estime Abdul Bin Saleh. La prochaine livraison est attendue dans plus ou moins 2 semaines, a indiqué l'homme d'affaires.
À Gbadolité, les agents de la DGRAD Nord Ubangi ont manifesté.
Ils sont au nombre des 47 qui réclament leurs arriérés de bonus de l'année 2009 auprès de leur direction provinciale de Gbadolité. Nous sommes dans la province de l'Équateur. La source de cette réclamation, selon eux, c'est après la comparaison faite avec leurs collègues de Mbandaka, de Gemena, de Bumba et de Lisala et de Boende, qu'ils ont remarqué une différence de 42 000 francs congolais par rapport au montant qu'ils ont touché. Reconnaissant cette situation, le directeur provincial de la DGRAD précise que la situation sera régularisée incessamment, car cette question concerne aussi leurs collègues d'autres provinces.
La nouvelle économique au bout du fil.
La nouvelle au bout du fil ce soir en province orientale. Nous rejoignons Sadala Chabani. Sadala, bonsoir. À Bounia, la Fédération des entreprises du Congo traverse une crise actuellement. Quelle est la situation et qu'est-ce qui est à la base de cette situation?
Oui, Jocelyne. La proposition de mettre en place un règlement d'ordre intérieur divise les membres de la Fédération des entreprises du Congo dans ce district. Cette proposition a fait l'objet d'un débat houleux. Il était à l'ordre du jour de la première rencontre du comité de crise de la FEC mise en place dernièrement. Pour les uns, ce règlement d'ordre intérieur devrait être appliqué en même temps que le statut qui régit la FEC. Et c'est là, pendant toute la période, le comité de crise qui est d'une période de 6 mois.
Mais qu'est-ce qui dérange dans ces règlements d'ordre intérieur?
Pour certains membres, il y a dans ces projets de règlement des articles à réviser, car selon eux, ces articles violent certaines dispositions des statuts qui organisent la FEC en République démocratique du Congo. Par exemple, L'article 5 de ce règlement d'ordre intérieur déclare caduques toutes les cartes délivrées par l'ancien comité. Aussi, l'article 14, qui contrairement au statut, augmente le nombre des membres des comités directeurs. Mais l'autre tendance soutient que ce règlement d'ordre intérieur contient des dispositions transitoires qui vont régir la période de la transition qui précède les élections d'un comité définitif.
Et finalement, est-ce que les discussions ont abouti?
Ces opérateurs économiques réfractaires à ce règlement d'ordre intérieur ont demandé 48 heures pour lire le texte élaboré par la tendance favorable au vice-président. C'est après cette lecture qu'ils vont se prononcer sur ce document avant son adoption par l'Assemblée générale. Donc, c'est un dossier à suivre.
Oui, un dossier à suivre, Sadala. Mais avant de conclure, peut-être un petit rappel sur ces comités de crise dont nous venons de parler.
Il s'agit d'un comité qui avait été mis en place pour mettre fin à une dissidence qui venait de naître au sein de l'AFEC. Dissidence dirigée par M. Todekana, qui reprochait au président de l'AFEC Ituri de ne pas organiser les élections. Le comité de crise, dirigé par le membre de ces deux tendances, a pour rôle d'organiser les élections d'ici 6 mois.
Merci Sadala Chabani pour cette information. Bonne soirée chez vous.
Info économique en Afrique et à travers le monde. Berry Luchaka.
Berry, l'Angola devrait se prononcer sur la structure de partenariat d'un nouveau projet minier de fer et de manganèse.
C'est pour un montant de 6 milliards de dollars américains. C'est l'un des plus grands projets d'exploitation minière en Angola, mais nous sommes toujours à la recherche d'un partenaire. C'est la déclaration du directeur de la coopération internationale au ministère de la Géologie et des Mines. Luis Antonio indique que la construction de ce projet pourra commencer d'ici 3 ans.
Le secteur minier sud-africain ne sera pas nationalisé.
L'annonce est faite par le ministre sud-africain des Mines en réponse aux appels de la Ligue de la Jeunesse du Congrès national africain. Cette décision est vivement saluée par le président de Beers, qui espère par cette décision que cela va régler le problème de mobilisation en Afrique du Sud une bonne fois pour toutes.
BHP Billiton a fait des bénéfices impressionnants au second semestre 2009, mais reste prudent.
Au dernier semestre 2009, le groupe a dégagé un bénéfice net de plus de 6 milliards de dollars américains, une hausse de 134% par rapport à la même période de l'an dernier, pulvérisant ainsi les prévisions des analystes. Les bénéfices plus que doublés, enregistrés en dépit d'une chute de 17,5% du chiffre d'affaires du groupe à 24,58 milliards de dollars, s'expliquent par une forte hausse des volumes de vente sur fond des reprises de la demande, particulièrement dans les matières premières sidérurgiques et par un contrôle des coûts, a expliqué BHP Billiton.
Merci Berry Franklin Luchaka pour ces informations internationales. Voici à présent la seconde partie de Écho d'économie.
Écho d'économie, le dossier.
Le Premier ministre Adolphe Mouzito s'est expliqué samedi dernier devant un parterre de journalistes à l'hôtel du gouvernement. Il a fait, sur base de présentations graphiques et chiffrées, un bilan de l'évolution économique sous sa gouvernance. Selon lui, la mauvaise gestion des régimes antérieurs est à la base de la situation économique actuelle du pays. Présentation et analyse de ces bilans dans ses dossiers d'Agathe Mpona. Agathe, bonsoir. Le Premier ministre a fait un bilan de l'évolution des salaires de quelques catégories socio-professionnelles. Qu'a-t-il dit à ce sujet?
Selon lui, Jocelyne, le gouvernement a nettement amélioré les salaires des soldats qui sont passés de 21,5 dollars en 2006, année où est entré en fonction le gouvernement issu des élections, à 70 dollars actuellement. Pour le huissier de l'administration publique travaillant à Kinshasa, il est passé de 41 à 70 dollars pendant la même période, c'est-à-dire 2006 à 2009.
Et les questions relatives au budget ont aussi été évoquées?
Bien sûr, et à ce sujet, le Premier ministre a affirmé que de 2006 à nos jours, l'apport des ressources propres du pays au budget de l'État sont allés en progressant. En 3 ans, cet apport a quasiment triplé, même si cette année, contrairement aux 3 années antérieures, l'apport des ressources extérieures a dépassé l'apport des ressources propres.
Et quels sont les autres aspects évoqués dans la présentation?
Il avait parlé du secteur bancaire, hein, qui en train de doper l'économie par une forte collecte de l'épargne nationale et une expansion du crédit à l'économie. En 10 ans, le nombre de banques est passé de 7 à 20, celui des comptes de 60 000 à 150 000. Concernant les investissements, pour la première fois, il a affirmé que la RDC a franchi le cap du milliard de dollars en investissement direct étranger pour atteindre 2,5 milliards aujourd'hui. Les investissements ne constituent que 4% des dépenses budgétaires, ce qui est déplorable. Le gros des dépenses étant attribué au salaire, à la dette publique et aux autres dépenses publiques.
Et quelle analyse peut-on finalement faire de toutes ces données?
Selon les analystes économiques, il importe peu que les salaires augmentent, mais ce qui importe, c'est que le pouvoir d'achat de ces fonctionnaires de l'État ait augmenté et que, comme en réalité ce pouvoir n'a pas augmenté, cette augmentation donc des salaires est donc nulle. On écoute André Moloto, maître de conférence à la faculté d'économie et administration des affaires de l'Université protestante au Congo.
Il dit bien que c'est au taux budgétaire, tellement différent du taux du marché. Et ça ne veut rien dire. L'année passée, le taux d'échange vous a varié aux alentours de 560-580. Et sur le marché, même parallèle, on est allé au-delà de 850. Alors vous vous rendez compte de l'écart. Ce qui compte, il doit répondre. Est-ce qu'il a amélioré le pouvoir d'achat de tous ces gens?
Concernant le secteur bancaire en pleine expansion, André Moloto, que nous avons interrogé, s'est référé aux propos de Michel Lusembe, président de l'Association des banques congolaises, en disant que la RDC reste sous-bancarisée. Encore une fois, on écoute André Moloto.
Peut-être il y a beaucoup de banques à Kinshasa, mais dans les régions comme l'Équateur, dis-moi quelle banque il y a là-bas. C'est vraiment très riche en agriculture et en forêt. Et chaque communauté a sa banque. Les Belges ont leur banque. Les Français ont leur banque. Les Libanais ont plusieurs banques. Mais c'est quoi ça? Et les Congolais n'ont aucune banque.
Il faut aussi dire que les analystes économiques ne sont pas non plus aussi enthousiastes que le Premier ministre concernant le taux en augmentation des investissements en RDC, car le pays reste encore dernier sur la liste des pays présentant des facilités pour investir le doing business, Jocelyne.
Merci Agathe Mpona pour ce dossier.
Merci.
Suggestions et réactions, n'hésitez pas. Un clic. echo@radiookapi.net.
Le laboratoire vétérinaire de Lubumbashi doit reprendre sa place d'antan et jouer son rôle pour protéger la population. Le rôle de ce laboratoire est complémentaire à celui de l'Office congolais de contrôle OCC. Et c'est la vision donc du ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage du Katanga, Barthélémy Mumbagama, qui entend redynamiser les activités de ce laboratoire et sensibiliser les opérateurs économiques sur l'obligation de collaborer avec cette institution. Officiel. Mumba Gama est au micro de Donatim Bosch. C'est l'entretien de ce soir.
Monsieur le ministre, est-ce qu'on peut savoir de quelle manière est organisé les laboratoires vétérinaires?
Ce laboratoire a été conçu dès le départ pour servir la province du Katanga et les deux provinces. Mais ce laboratoire est mis à la disposition du ministère de l'Agriculture. Mais vous avez également le service des quarantaines. Et la quarantaine est le service de l'agriculture qui est à la frontière et qui veille à ce que la qualité des denrées alimentaires importées soit bonne, soit meilleure. Hein, l'instrument qui est chargé de ce travail-là.
Est-ce qu'il n'y a pas chevauchement avec l'OCC? C'est pas double emploi?
C'est pas double emploi parce que, je vous donne un exemple pour que ce soit bien compris. L'OCC peut constater que les poulets ont une date de péremption qui est conforme. Il reste encore 6 mois pour que le produit soit déclaré impropre à la consommation. Mais le même poulet là qui, sur le plan de la date, est conforme, peut contenir des germes et des bactéries. Et la question de détecter les germes, de détecter les bactéries, ça c'est le laboratoire qui est compétent.
Donc les opérateurs économiques n'ont pas à choisir où aller entre l'OCC et les laboratoires vétérinaires?
Les deux sont complémentaires. Parce qu'on ne pouvait pas dire, ah oui, parce que c'est conforme, je m'arrête là. mais si c'est conforme, ça amène la maladie. La plupart des cargaisons qu'on a détruites, c'était des cargaisons qui étaient dans le délai, mais qui emportaient en elles la grippe aviaire, ou la grippe porcine ou d'autres maladies.
Vous comptez faire comprendre ça aux opérateurs économiques?
Oui, il y a des opérateurs économiques qui d'eux-mêmes amènent des échantillons au laboratoire pour s'assurer que les produits qu'ils mettent en consommation sont bons. Il y en a beaucoup. Il y en a qui amènent le lait, qui amènent les yaourts, hein, pour être sûr que les produits qu'ils mettent en consommation sont conformes. Il y en a qui, par ignorance, n'amènent pas pour certifier les produits qu'ils mettent en consommation. Ceux-là, on va les sensibiliser.
Et les agents qui sont au laboratoire, vu les produits qui manquent, les intrants qui manquent, peuvent attendre quoi du gouvernement?
Le gouvernement a déjà acheté pour plus de 200 000 dollars les produits vétérinaires qui sont en train d'arriver. Et certainement que dans les lots qui arrivent, il y a des intrants qu'on va mettre à disposition du laboratoire. Et je pense qu'avec toutes ces prestations, il y a quand même des recettes qui seront réalisées et qui pourront servir justement à acquérir d'autres intrants.
Merci Donat, cet entretien boucle l'émission de ce soir. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. Prochaine émission, demain, 18h15, heure de Kinshasa. Bonne soirée.